Vous écoutez Secrets d'Histoire, Néfertiti, mystérieuse reine d'Égypte. Troisième partie.
Jamais auparavant, l'art n'avait été aussi réaliste, aussi familier. Rendre hommage à la vie telle qu'elle est, c'est pour les artistes commandités par le couple royal célébrer son créateur, le dieu unique Aton. La reine semble réellement s'avancer à notre rencontre. L'idéalisation des premières années n'est plus de mise. On remarque sa poitrine un peu tombante, son ventre rebondi. Elle en devient d'autant plus émouvante. C'est une vraie femme qui nous est présentée, non une déesse inaccessible. La reine n'a plus 15 ans, elle a déjà enfanté à 7 reprises. La famille, mais aussi l'amour, devient au temps de Néfertiti un véritable sacerdoce. Les femmes n'ont jamais été autant valorisées et séduisantes. Les représentations officielles ne cessent de vanter l'harmonie, la tendresse, le sentiment. On se touche, on se caresse. Mais qu'en est-il vraiment? Fait-il aussi bon vivre à Amarna que la famille royale souhaite à tout prix le faire croire?
La vie à Akhetaton est un petit peu différente du reste de l'Égypte.
Virginie Giraud, historienne.
On est dans une période très particulière où on va mettre davantage en avant les plaisirs de la vie, du quotidien. L'important est de profiter de chaque instant.
Ces plaisirs de tous les jours sont représentés sur la plupart des murs en briques de la nouvelle capitale. Des petites scènes évocatrices qui, telles une bande dessinée, nous renseignent sur le quotidien autour du palais. On les appelle les talatates.
On peut voir notamment des scènes qui se déroulent dans une boulangerie.
Marie Nyoyot, égyptologue.
Donc on a vraiment du pétrissage du pain jusqu'à son stockage et ensuite à son transport. On va avoir des scènes également avec des potiers, d'autres scènes avec des menuisiers qui vont nous permettre de mieux comprendre la vie quotidienne à l'époque d'Akhenaton.
Cela dit, si on a de nombreuses représentations de la vie quotidienne, il s'agit de représentations idéologiques, c'est-à-dire qu'on a du mal à savoir ce qu'était réellement la vie de tous les jours.
Christian-Georges Fenzel, historien.
Notamment des classes sociales inférieures, qui étaient loin de toute évidence d'être aussi idylliques que cette vie rêvée affichée par les souverains ou éventuellement aussi par les notables.
L'amour, la tendresse, l'intimité entre Néfertiti et le roi est aussi affichée à maintes reprises sur les murs. Une nouveauté en ce qui concerne une reine et un roi.
On voit par exemple, contre toute attente, Néfertiti approcher la main du menton de son mari, le prendre par le visage, comme si elle allait l'embrasser sur la bouche.
On a plusieurs scènes, on a Akhenaton avec Néfertiti et il lui donne un baiser.
L'art d'Amarna représente un couple très uni, amoureux. Mais en réalité, on ne sait pas vraiment ce qui se passait. Nous ne pouvons voir aujourd'hui que ce que le couple royal a voulu mettre en avant de sa vie.
Ce message s'adresse finalement à l'ensemble de l'Égypte. Soyez heureux.
Philippe Séguy, écrivain.
Soyez heureux puisque nous le sommes. Donc nous vous donnons le bonheur. Ce bonheur passe par le culte d'Aton. Priez Aton, vous serez heureux.
7 enfants naissent de cette union apparemment sans nuages, dont 6 petites filles, qui portent tout un prénom en relation avec le dieu Aton. Des enfants maintes fois représentés aux côtés de leurs parents.
On les voit en permanence dans des scènes de vie quotidienne, très tendres par ailleurs. On voit les deux parents avec leurs petites filles, on voit Néfertiti tenir l'une de ses enfants dans les bras, comme un petit bébé qu'elle berce. On a l'impression de pouvoir accéder vraiment à leur quotidien et on sentirait presque l'amour qui règne dans cette famille. Toutes les princesses sont toutes représentées avec la même coiffure. Les cheveux sont rassemblés sur le côté en forme de couette ou de tresse qui pend.
Jusqu'alors, c'était plutôt les princes qui portaient cette mèche. Mais dans un premier temps, Akhenaton et Néfertiti n'ont que des filles. Donc les filles sont considérées ici un petit peu comme des princes, d'où cette mèche qui les désigne comme des héritiers légitimes.
Des princesses considérées à l'égal d'un héritier, une souveraine, Néfertiti, aussi puissante que son époux, la place des femmes en Égypte reste un cas unique dans l'Antiquité.
Ce qui fait la spécificité de l'Égypte, c'est que le statut des femmes y est particulièrement moderne pour l'époque. On est en 1300 avant Jésus-Christ et les femmes jouissent d'une certaine liberté. Elles peuvent choisir leur mari, elles peuvent divorcer, elles peuvent travailler pour la majorité d'entre elles. Donc elles ont un statut qui est très différent du reste de ce qu'on trouve à l'époque.
Mais elles sont quand même dans une position inférieure à leur mari parce qu'elles ont un devoir absolu de fidélité. La femme infidèle peut être condamnée à mort.
Et les hommes, eux, les hommes complices d'adultère, pouvaient être jetés au crocodile. Donc encore une fois, ce sont des punitions extrêmement graves. Mais la plupart du temps, en cas d'adultère, tout se finissait par un divorce.
Si la fidélité est de mise, érotisme et fantasme font aussi partie de la vie quotidienne des Égyptiens à Amarna.
Ce qui est tout à fait remarquable à l'époque d'Akhenaton, c'est les costumes des femmes.
Marc Gabold, égyptologue.
Où on voit très très bien que la sensualité est mise en exergue, hein, elle est exaltée. Les femmes ont des formes très très généreuses et elles sont vêtues de voiles extrêmement légers.
De manière générale, la religion d'Aton est assez optimiste. On jouit des plaisirs du quotidien et l'érotisme est naturellement présent. D'ailleurs, les Égyptiens avaient cette jolie expression qui disait « faire un jour heureux » pour dire qu'on avait fait l'amour.
On possède un certain nombre de documents érotiques, pornographiques même, égyptiens, comme le fameux papyrus de Turin, qui représente des scènes parfois très acrobatiques.
Avec des partenaires masculins qui sont assez difformes et avec les attributs sexuels hypertrophiés, et des femmes qui ont toujours l'air un petit peu passives.
C'est plutôt des fantasmes qui sont représentés. Hein. Cela dit, la sexualité est très très présente hein, dans les mythes, dans la religion égyptienne, le plaisir féminin est évoqué, mais il est quand même toujours lié à la procréation, c'est-à-dire que l'érotisme est lié quand même, c'est pour faire des enfants.
Si procréer est une finalité, il existe néanmoins de nombreux moyens de contraception.
Il y avait notamment des pessaires, donc des sortes de tampons médicaux, qui étaient insérés au fond du vagin et qui contenaient plusieurs produits destinés à empêcher la conception. On trouvait notamment dans ces pessaires de la crotte de crocodile, riche en vitamine E et A, avec des propriétés hydratantes, mais surtout du miel qui empêchait la progression des spermatozoïdes.
La contraception n'est pratiquée que par les pauvres, ceux qui ne peuvent pas assurer la subsistance d'enfants. Cela dit, Néfertiti n'a pas recours à la contraception puisque son but, c'est de tout faire pour avoir le maximum de maternité et d'enfants possible.
Incarnation d'Aton, déesse sur Terre, Néfertiti se doit aussi d'être la plus belle. L'hygiène et les soins apportés à son corps font partie d'un véritable rituel, à l'égal de celui rendu au disque solaire.
Elle va se laver, accroupie sur une natte de jonc, ses servantes autour d'elle pour lui verser de l'eau sur le corps, un peu comme nos douches actuelles.
Élisabeth de Fédot, historienne du parfum.
Et cette eau est mêlée à du natron, qui est un minéral, donc composé entre autres de bicarbonate de sodium, qui permet d'éclaircir la peau. Néfertiti, cette reine du sud, avec cette peau un peu sombre, va chercher à clarifier son teint par cette eau mélangée au natron. Les dents sont en très bon état chez les Égyptiens, c'est ce qu'on constate en tous les cas sur les momies. Donc les Égyptiens prennent grand soin de leur dentition, tout d'abord avec des bâtonnets qui permettent d'enlever, si vous voulez, tous les aliments qui auraient pu rester dans les dents, et ensuite par un brossage minutieux et un rinçage avec de l'eau mêlée à du natron pour blanchir les dents.
Hormis la propreté, l'obsession de la reine, mais aussi de tous les Égyptiens, et l'élimination quotidienne du poil.
Le poil rappelle l'animalité et qu'il est nécessaire de s'en éloigner pour être un humain. Donc, les Égyptiens vont pratiquer l'épilation de manière intensive. Et plus on est dans les hautes couches sociales, plus on la pratique, à tel point qu'on n'a plus un seul poil sur le corps, on s'épile intégralement.
Il s'agit vraiment d'éliminer les poils, moyen de pinces à épiler, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans les tombeaux des nobles de l'époque. Alors pour des raisons autant esthétiques qu'hygiéniques, puisqu'il s'agit d'éviter les poux et les parasites. Et puis, on porte des perruques, hein, puisque le crâne est rasé.
Des perruques souvent assez larges pour se protéger du soleil. Hein. Ça remplaçait les chapeaux d'une certaine manière. Donc ces perruques étaient de très belle qualité dans l'aristocratie, souvent faites de cheveux naturels. Et dans les plus basses couches sociales, on trouvait également des perruques dans d'autres matières, comme de la laine ou du crin de cheval.
Donc, lorsque une femme veut séduire, elle met sa perruque.
Pour plaire, les yeux et les sourcils sont aussi mis en valeur. Maquillé, le regard s'allonge à l'infini, comme un miroir des dieux.
L'incontournable du maquillage de Nefertiti, c'est cette technique ancestrale du kohl. Il s'agissait de se protéger à la fois du sable et du soleil. N'oublions pas que tout est épilé. Donc l'œil est à nu. Donc le kohl permet de faire une sorte de lunette de soleil, si vous voulez, puisque cet épais trait noir protégeait des rayons du soleil la pupille. Et puis aussi, ça permettait, comme c'était un antiseptique, d'agir comme un collyre contre d'éventuelles saletés qui pourraient se mettre dans l'œil. Alors, on posait également du fard qui était de couleur bleue, parce que le bleu était une couleur très positive, la couleur de l'éternité, de l'immortalité et donc de la divinité.
Les objets liés à la beauté dont dispose la reine et les riches égyptiennes sont multiples. Miroirs sculptés, peignes délicats, peaux à onguents finement décorés. Raffinés, ils font partie pourtant du quotidien. L'un des plus évocateurs se trouve exposé au musée du Louvre. Une cuillère à phare en forme de canard, présentée par une nageuse délicate et sensuelle.
L'esthétique est quelque chose de fondamental dans la culture égyptienne. C'est même beaucoup plus prégnant que dans d'autres cultures de la même époque. Ça fait vraiment partie du quotidien. C'est une nécessité d'être beau et de prendre soin de soi. Et ça a aussi une dimension religieuse, parce qu'il est nécessaire de garder un beau corps en bonne forme en vue de le conserver symboliquement dans la vie après la mort.
Aimant la vie et ses plaisirs, les Égyptiens de l'Antiquité sont pourtant obsédés par la mort et passent une grande partie de leur existence à la préparer. Tout doit être fait pour qu'ils puissent renaître dans l'au-delà en toute tranquillité. Et surtout, sans perdre au change, ils appellent joliment ce paradis le pays des bienheureux. Tout un programme. Pour cette renaissance tant attendue, le corps du défunt se doit d'être intact. Les principes d'embaumement sont là pour l'y aider. Mais il ne s'agit pas pour lui de renaître pour autant nu comme un ver, débarrassé de ses biens terrestres, puisqu'il s'entoure dans sa tombe de toutes ses richesses et même de nourriture. Qu'on se le dise, un Égyptien mort, même renaissant, a faim. Comme tous leurs ancêtres avant eux, Nefertiti et son époux Akhenaton ont préparé avec soin leur passage vers l'au-delà. Mais ils doivent, avant cette immortalité espérée, faire face à de nombreux drames que les rayons d'Aton ne suffisent pas à atténuer. La joie à Amarna fait place à la douleur et aux larmes.
La fin du règne de Nefertiti et d'Akhenaton est hélas frappée par une série de décès qui affectent
Dimitri Labouri, égyptologue.
La famille royale.
Trois des six petites princesses vont mourir, certainement en couche et peut-être évidemment de maladie. Et là, le chagrin du couple royal est immense.
Ces enfants royaux vont être enterrés, on le sait, dans des appartements parallèles à la tombe royale à Amarna, sur le site d'Amarna, où on va creuser des galeries particulières pour pouvoir les accueillir.
Des fresques abîmées, mais toujours présentes dans le caveau aménagé par le couple royal, éternise ce moment douloureux, celui de la perte d'un enfant, le chagrin inconsolable.
C'est la première fois que l'on va voir vraiment le couple royal afficher le deuil, ainsi que l'ensemble de la famille royale.
Le chagrin de Néfertiti éclate à la vue de toute l'Égypte. Oui, moi, déesse, je pleure la disparition de mes filles. Voir pleurer un pharaon, voir pleurer une reine en Égypte, on l'a jamais vu.
Autre pilier familial qui disparaît à la même époque, la reine-mère Tilly. Une nouvelle peine immense dans le cœur d'Akhenaton et de Néfertiti. Elle aussi est inhumée dans le caveau royal d'Amarna.
Cette épidémie de décès est tout à fait surprenante. Les fouilles du site d'Amarna montrent qu'il y avait un taux de mortalité très important et des indices convergents montrent que la peste sévissait à Amarna.
Ça n'a pas évidemment servi à Akhenaton. Ces décès sont catastrophiques. Bon, à la rigueur, la reine Tilly a plus de 60 ans, pourquoi pas, mais enfin, les trois princesses sont très jeunes. Elles sont censées être protégées par Aton, qui est présent dans leur nom. Donc c'est une sorte de démenti en contradiction totale avec l'idéologie officielle.
Ça ne peut être ressenti que comme, je dirais, une sorte de punition divine. Et les dieux qui ont été délaissés peuvent être imaginés comme ceux qui cherchent à se venger.
Pour enrayer ces épidémies de peste divine, les médecins égyptiens sont totalement impuissants. Leur savoir-faire est pourtant réputé dans tout le Moyen-Orient.
Il y a une médecine égyptienne à l'époque qui est très développée. Un certain nombre de prêtres, notamment, sont des prêtres médecins. Souvent, les diagnostics sont bons, c'est-à-dire qu'il y a une assez bonne connaissance du corps humain, mais les remèdes qui sont proposés sont parfois complètement délirants. On utilise beaucoup les excréments des animaux, le bouse d'hippopotame, les chiures de mouches, ou les excréments de crocodile aussi, enfin, qu'on applique sur les plaies, ce qui devait les surinfecter.
Les Égyptiens pensaient que cet élément négatif allait fonctionner comme un aimant et attirer vers l'extérieur du corps les souffles négatifs qui perturbaient l'équilibre de ce corps.
Hormis ces remèdes peu ragoûtants, la méconnaissance du rôle des principaux organes humains rend bien aléatoire la pratique de la médecine.
Par exemple, elle nie complètement le cerveau. Le cerveau n'existe pas. Dans les deux oreilles, il n'y a rien du vide. En revanche, le cœur est le centre de tout. Il est le centre de l'âme, il est le centre de la conscience, il est le centre des émotions. C'est le cœur, finalement, qui permet à l'ensemble de l'être humain de vivre, de respirer, de souffrir, d'être heureux, et ainsi de suite.
Et puis, on ne voit pas trop la différence aussi entre la médecine et la magie.
Souvent, malheureusement, le malade décède. Depuis le début de l'Antiquité égyptienne, rois et reines ont pris l'habitude de se construire des nécropoles en forme de pyramide, le symbole de l'élévation de l'âme vers le ciel. Pourtant, à la 18e dynastie, celle des ancêtres d'Akhenaton, tout change.
On a remplacé les pyramides par des appartements funéraires souterrains qu'on appelle les hypogées, avec des galeries, des chambres funéraires, sans doute pour que ce soit aussi peut-être un peu plus discret, pour éviter les pillages, parce qu'il y a des pilleurs de tombes dès l'Antiquité.
On va investir ce qui va devenir la célèbre Vallée des Rois, qui est une vallée au pied d'une montagne qui ressemble à une pyramide naturelle, où chaque souverain va aller faire creuser une tombe qui s'enfonce profondément dans cette vallée.
L'idée est de se cacher à l'intérieur de la montagne, qui est plus ou moins divinisée, associée à la déesse Hathor.
À l'image de leur rupture spirituelle, Akhenaton et sa très belle épouse Néfertiti choisissent d'abandonner cette vallée des rois proche de Thèbes. De nouvelles nécropoles sont creusées près d'Amarna, celle de la famille royale, mais aussi celle de riches dignitaires au service du roi. Un changement radical qui ne touche pourtant pas l'un des rites funéraires ancestrales, la momification.
pour renaître dans l'au-delà, pour accéder au paradis, il faut absolument conserver le cadavre en bon état. C'est ce qui explique ce rituel de la momification si important pour les Égyptiens.
Les prêtres commencent par laver le corps, par l'épiler.
Florence Maruéjol, égyptologue.
Ensuite, ils vont enlever les différents organes du corps, en commençant par le cerveau.
On retirait le cerveau par le nez en enfonçant des crochets en bronze par les narines, qu'on faisait sans doute tourner sur eux-mêmes pour réduire le cerveau en bouillie.
Les embaumeurs vont ensuite ouvrir l'abdomen du côté gauche pour retirer les viscères, l'estomac, les poumons, le foie et les intestins. Le cœur, lui, reste en place. Une fois que les embaumeurs ont retiré les viscères, ils les déposeront dans des vases qu'on appelle les vases canopes.
Ensuite, le cadavre était placé dans un bain de natron, c'est-à-dire en gros un bain de sel, pour le dessécher.
Cette opération réalisée, les embaumeurs vont procéder au bandelettage de la momie. Entre les bandelettes, les embaumeurs glissent des amulettes protectrices qui auront pour rôle de veiller sur le défunt. La tête de cette momie montre qu'après moult tâtonnements, les Égyptiens étaient parvenus à un degré de sophistication pour momifier les défunts assez étonnante. On a presque l'impression qu'elle va se lever et marcher.
Long et coûteux, ces rituels ne sont réalisés que pour les plus riches ou la famille royale.
Il y a une inégalité sociale totale en Égypte, dans la vie et aussi face à la mort. Les pharaons ont plusieurs sarcophages successifs, des sarcophages en bois doré, voire des sarcophages en or massif. Ensuite, ces sarcophages emboîtés les uns dans les autres étaient placés dans une cuve en pierre.
Indestructibles, les sarcophages sont souvent gravés de légendes des dieux, comme celui du pharaon Amenhotep II, arrière-grand-père d'Akhenaton, inhumé dans la vallée des rois.
La momie, placée donc dans ses cercueils emboîtés les uns dans les autres, est accompagnée de tout un mobilier funéraire.
Le fait d'entourer le mort de ses objets fétiches fait en sorte que dans l'au-delà, l'âme immortelle continuera de vivre entourée des objets familiers, comme si l'individu était encore vivant.
L'objectif des pratiques funéraires égyptiennes était de dupliquer en fait les plaisirs de l'ici-bas, ce qui montre très bien que les Égyptiens n'étaient pas des êtres morbides, obsédés par la mort, mais plutôt obsédés par l'idée de continuer les bienfaits de la vie ici-bas.
Un voyage vers l'au-delà qui évolue beaucoup avec le nouveau dieu Aton, adoré par Néfertiti et son époux. Fini la vie éternelle bienheureuse. Fini le paradis à l'image d'une campagne idéale. Le pharaon n'est plus associé à Osiris, le dieu des morts, assisté d'Anubis. Il ne peut plus prétendre à l'immortalité.
Le dieu Osiris, le dieu Anubis, toutes ces divinités qui favorisaient la renaissance du mort vont disparaître. Désormais, les croyances funéraires se déroulent autour d'Aton.
L'immortalité est remplacée par la survivance dans la mémoire des vivants, toute dédiée au culte du disque solaire et à sa lumière.
Cette simplification des représentations de la mort pour les Égyptiens a dû leur apparaître comme un véritable appauvrissement.
Les Égyptiens commençaient à douter. C'est trop intellectuel, c'est trop lointain et surtout c'est trop étranger à leur véritable foi et je dirais surtout à leur véritable caractère.
Alors que le peuple est en proie à toutes les incertitudes, 2 ans après le décès de ses 3 filles, Néfertiti s'efface soudainement de la cour et de la vie de son époux.
Néfertiti est attestée jusqu'en l'an 16, c'est-à-dire la dernière année du règne d'Amenhotep IV Akhenaton, et puis elle disparaît complètement de notre documentation.
A-t-elle été victime de la peste ? Mystère. Est-elle morte parce qu'elle a été assassinée, je dirais, dans le cadre d'un complot ou d'une vengeance ? Mystère. Est-elle morte en couche ? Il s'agit encore d'une jeune femme. Mystère. Ce que l'on sait, c'est qu'en effet, elle disparaît complètement de la scène publique.
Elle a alors 26 ou 27 ans. Akhenaton va alors épouser sa propre fille Meritaton, qui a 12-13 ans et qui devient grande épouse royale pendant quelques mois seulement, puisque lui aussi meurt en l'an 17, quelques mois seulement après Néfertiti.
À la mort du pharaon, c'est sa fille et grande épouse Meritaton qui lui succède. Un règne de courte durée, puisqu'elle disparaît à son tour 3 ans plus tard. C'est alors au tour de son jeune frère de monter sur le trône, un enfant roi de 9 ans, du nom de Toutankhaton.
C'est le dernier enfant, on le sait maintenant, du couple royal d'Akhenaton et de Néfertiti. Il est conseillé par Haï, le père très vraisemblablement de Néfertiti.
Et Haï, sans trop de scrupules, manifestement, dit le désordre produit considérable par le défunt pharaon, maintenant ça suffit. On va revenir aux croyances, aux coutumes ancestrales et on va redonner à Amon et à l'ensemble des dieux de l'Égypte la place qui leur revient de droit, c'est-à-dire la première. Progressivement, cette influence va considérablement détourner ce petit pharaon des dieux de ses parents. Et Toutankhaton devient progressivement et définitivement Toutankhamon.
Il va revenir donc à la résidence royale autour du site de Thèbes, dans l'actuel Louxor, où se trouve le fief du dieu Amon, et assez naturellement va décider de se faire enterrer dans la vallée des rois, mais aussi de faire réenterrer les membres de sa famille dans cette vallée des rois.
C'est un geste qui finalement s'adresse à l'Égypte entière. Je veux renouer avec les coutumes. Je veux renouer avec les rites. Il va falloir faire en sorte que cette parenthèse, auquel on ne comprend plus rien, s'efface progressivement de la mémoire des hommes.
C'est donc dans la vallée des rois, dans un tombeau de fortune, que le jeune pharaon Toutankhamon inhume à nouveau son père. Une nécropole appelée aujourd'hui KV-55.
La tombe KV-55 a été découverte en 1907 avec à l'intérieur un sarcophage en partie mutilé et à l'intérieur de ce cercueil, une momie, en fait, des restes osseux d'Akhenaton. Très curieusement, tous les noms royaux ont été mutilés. Donc on a enterré un roi. Et ensuite, on a enlevé son nom.
Il est ce pharaon hérétique, ce pharaon qu'il faut effacer de la mémoire des hommes, l'homme qui a osé s'opposer aux dieux et l'homme qui, je vais le dire dans des mots quotidiens, modernes, brûle en enfer.
Si l'on découvre que Néfertiti est à plusieurs reprises représentée sur le sarcophage royal de son époux, on ne trouve aucune trace de sa dépouille. À une centaine de mètres, une autre tombe, bien mystérieuse, se révèle riche en révélations. Il s'agit de celle de l'arrière-grand-père d'Akhenaton, le pharaon Amenhotep II.
Dans la chambre funéraire d'Amenhotep II, il y a Amenhotep II dans son sarcophage et deux pièces qui sont scellées, deux pièces annexes de la tombe, avec d'un côté six momies de rois, et de l'autre côté, trois momies anonymes, une momie de femme âgée, une momie de jeune femme et une momie de prince.
Ces deux momies de femmes étaient alignées l'une à côté de l'autre. Celle qui paraît la plus âgée a une longue chevelure parfaitement conservée, splendide, tandis que l'autre a le crâne rasé. Par ailleurs, elle a subi des dommages post-mortem qui l'ont en partie défigurée, puisqu'elle a une partie de la mâchoire qui a été arrachée.
On savait que c'était des momies royales, mais leur attribution était incertaine, puisqu'il n'y a pas d'inscription en général qui accompagne ces momies et qui nous permettent de les identifier.
Récemment, des analyses ADN ont été faites sur ces momies qui ont permis d'identifier la femme âgée comme la reine Tilly. Et la jeune femme comme la mère de Toutankhamon, une parente très proche d'Akhenaton, sa cousine Néfertiti.
Lorsqu'on découvre la momie de Néfertiti, le choc est immense. On ne peut pas s'empêcher de penser que l'on contemple ce qu'il reste de celle qui fut la plus belle femme de l'Antiquité.
Une beauté aujourd'hui évanouie, des noms qui font rêver. Il reste peu de choses de Néfertiti et de son époux Akhenaton. Si ce n'est peut-être leur désir insensé de changer un monde dont ils avaient hérité au nom d'une intuition.
Cette extraordinaire, exceptionnelle parenthèse n'est qu'un rêve. Ce rêve progressivement sera laminé par le sable du désert qui va recouvrir cette vision de deux êtres vivants, qui va recouvrir cet extraordinaire projet monothéiste. De ce rêve, de cette parenthèse incroyable et inspirée, si lumineuse, il ne reste que des ruines encore visibles aujourd'hui à Amanah.
Que reste-t-il de ces 17 années de règne révolutionnaire? Une cité grandiose, comme l'Égypte n'en avait jamais connue, sortie des sables et redevenue poussière. Une tentative de bouger des traditions ancestrales, celle du culte des dieux, celle de l'immortalité, l'idée que rien n'est vérité, même les croyances les plus anciennes. Le culte de la personnalité du couple royal aussi, que le grand Ramsès II, deux siècles plus tard, reprendra à son compte en bâtissant le magnifique Abou Simbel. Un art amarnien enfin, si fin et si fort que sa spiritualité nous bouleverse encore. Et cette merveille de modernité, ce buste fascinant, celui d'une reine qui nous observe comme elle regardait son peuple il y a plus de 3500 ans, de son air serein rempli de grâce et de certitude. L'assurance de se savoir pour des siècles et des siècles la plus belle d'entre les belles, Néfertiti, mystérieuse et inaccessible reine d'Égypte. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Dominique Leb. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Isabelle Benadj.